Rencontre spirituelle, aujourd'hui, il sera question d'un nouveau saint qui a été canonisé le mois dernier, le 18 avril. C'est sa fête aujourd'hui, le 20 mai, Saint Marcellin Champagnat, qui est mort au mois de juin, mais sa fête se célèbre le 20 mai. Marcellin Champagnat a fondé les frères maristes que l'on connaît bien. Ils ont en particulier un collège important, le collège Laval, sur l'île de Laval, la ville de Laval. Saint Marcellin Champagnat est mort en 1840. C'était un prêtre de feu, un prêtre d'un courage sans bornes, qui croyait à l'éducation chrétienne des enfants. Un peu plus de 100 ans après l'ouverture du procès ordinaire du fondateur des frères maristes des écoles dans le diocèse de Lyon, qui a fondé ça, eh bien, l'Église catholique propose, parce que c'est nous l'Église, n'est-ce pas, un nouveau modèle de sainteté dans la personne de cet homme remarquable. Sa vie s'applique aussi bien aux laïcs qu'aux frères, qu'aux prêtres. Et pour que le pape canonise aujourd'hui, c'est ce qu'on écrit dans l'Informateur catholique, sous la plume de Michel Boulevard, une excellente journaliste catholique d'ailleurs, mais pour que le pape canonise aujourd'hui ce prêtre éducateur exceptionnel, il a fallu d'abord, comme vous savez tous, que soient reconnues d'abord ses vertus héroïques, l'héroïcité de ses vertus, comme on dit. Ça a été reconnu, c'est par Benoît XV en 1920. Puis, il faut aussi qu'un miracle lui soit attribué par son intercession. Un miracle que Dieu accomplit par l'intercession de cette personne, de cet homme ou cette femme qui doit être béatifiée. Et sa béatification, qui a eu lieu le 25 mai 1955 par le pape Pie XII, eh bien, il y a eu un miracle. Le miracle s'est produit à Montevideo, en Amérique du Sud, en juillet 1976. C'est un frère, le frère Heriberto, de son vrai nom Heinrich Gerhard Weber, un Allemand, né en 1908. Il travaillait donc à Montevideo, en Uruguay, depuis 1937. Et il était condamné par les médecins et il vient de diagnostiquer, je donne les termes scientifiques, une néoplasie primitive inconnue avec métastase dans les poumons. Alors, des douleurs intenses à la colonne vertébrale, puis une forte fièvre oblige ce malade à garder le lit au sanatorium, et le frère provincial des frères maristes d'Uruguay demande donc aux frères et à leurs élèves d'entreprendre une neuvaine pour obtenir, par l'intercession du bienheureux Marcellin Champagnat, la guérison du frère Heriberto. Et à la fin de la neuvaine, qu'est-ce qui arrive, évidemment, vous comprenez, c'est la santé de ce malade qui s'améliore et des radiographies viennent confirmer que son mal a disparu. Et alors, la commission médicale du Vatican reconnaît, le 26 juin 1997, la guérison qui a été très rapide, complète et durable et qu'elle est scientifiquement inexplicable. Et alors, l'Église au Vatican, là-bas, décide donc de reconnaître ce miracle, survenu par l'intercession du bienheureux Champagnat, qui sera canonisé. Oui, qui sera canonisé le 18 avril, comme je vous ai dit au début. Pour tous les frères maristes, et même peut-être pour les pères maristes fondés par le père Colin, qui était un ami de Saint-Marcellin Champagnat, eh bien cet événement, qui est un événement d'Église, ça marque un tournant important pour ces frères. Ça leur donne plus de courage. Ils ont le désir de s'intégrer davantage, évidemment, dans l'Église locale et diocésaine. Ça donne du feu, ça. Et les frères maristes veulent donc approfondir la spiritualité. La spiritualité de cet apôtre. De cet apôtre inspiré en grande partie par la Très Sainte Vierge. Puisqu'il s'appelle les frères maristes, en l'honneur de Marie. C'est une spiritualité profondément fondé sur l'abandon. L'abandon, oui, s'abandonner à Dieu. Ça jaillit de l'amour de Dieu. Ça se développe aussi par le don de nous-mêmes aux autres. Et ça nous conduit à Dieu le Père, à sa bonté. Et ça décuple, ça centuple le courage qu'on peut avoir quand on se sait tant aimé par le Père. Saint-Marcellin Champagnat disait en 1838 dans une lettre au frère François qui lui a succédé ou qui a été nommé supérieur des frères maristes, le premier, « Il est toujours bien vrai de dire que nous sommes entre les mains de Jésus et de Marie. Alors priez-les, mes chers frères, pour que la sainte volonté de Dieu se fasse et tâchons de ne vouloir bien que ce que Dieu voudra, de ne vouloir bien que ce que Dieu voudra. » C'est ça. Abandonnons, dit-il, le succès entre ses mains. Et c'est mieux que nous, ce qu'il nous faut. Hein? Alors, toujours habité, on peut dire, d'une confiance totale en la Providence, les frères maristes d'aujourd'hui se laissent de plus en plus entraîner sur de nouveaux sentiers, comme le fait le frère Marcel Vien, qui est maintenant à la paroisse Saint-Eugène, qui lui a été remise pour ses rameurs sans frontières par le cardinal Turcotte. Hein? Alors, les frères maristes sont sensibles, comme Saint-Marcellin, aux cris de souffrance du monde. Ils cherchent, comme lui, à affronter ces espèces de situations épouvantables, douloureuses, pour donner des solutions adaptées. Et c'est ainsi que le frère Marcel Vien en arrive à simuler la foi des jeunes. Et c'est lui qui a présenté de nombreuses pièces de théâtre, avec ces jeunes, évidemment, des pièces de théâtre religieuses, comme on n'en fait pas ailleurs, s'ils sont les seuls. Ils font des émissions aussi à la radio de Radio Ville-Marie. Et ils ont bien d'autres projets. Saint-Marcellin Champagnat est né le 20 mai, c'est l'anniversaire de sa naissance aujourd'hui, c'est pourquoi on le fête aujourd'hui. En 1789, il y a 210 ans, quoi, c'est juste au moment de la Révolution française, 1789. Il est né dans une paroisse de campagne, dans le diocèse de Lyon. Il est baptisé le lendemain, comme on faisait. Vous vous souvenez, on était baptisés le jour même ou le lendemain. C'était le jour de l'Ascension, le jour de son baptême. Et il reçoit les noms de Marcellin, Joseph, puis Benoît. Benoît, oui. Toute sa vie, il remerciera Dieu. Surtout au jour anniversaire de son baptême, de la grande grâce. De la grande grâce reçue dans ce sacrement qui l'a fait chrétien. Est-ce qu'on y pense de célébrer le jour de notre baptême? Hein? Souvent, on célèbre le jour de notre naissance. Peut-être faudrait-il essayer de deviner le jour de notre conception aussi, mais surtout le jour de notre baptême. Ses parents sont des cultivateurs qui sont appréciés dans la région, là, dans la région de Lyon. Ils donnent d'ailleurs l'exemple des plus belles vertus. Ils ont une famille nombreuse, ils ont 10 enfants. Et comme le dernier est mort, bien Marcellin, l'avant-dernier, se trouve le plus jeune. Sa mère récite tous les jours le chapelet avec ses enfants. Elle a eu, dit-on, comme une révélation de la sainteté de son petit Marcellin, la sainteté future de son petit garçon. Alors qu'il est encore au berceau, qu'est-ce qui est arrivé? Ça semble être une histoire inventée, mais ce serait peut-être possible. Pourquoi pas? Elle a vu plusieurs fois une sorte de flamme lumineuse sortir de la poitrine de son enfant. Et cette flamme a voltigé au-dessus de sa tête pendant quelque temps, avant de se dissiper dans l'air. C'est un phénomène qui a été rapporté par plusieurs témoins au procès de sa béatification. Alors, est-ce vrai, c'est une invention, peu importe. C'est une belle histoire. Moi, ça me plaît beaucoup. De toute façon, Madame Champagnat est aidée dans ses soins de tous ses enfants par une parente, une religieuse chassée de son couvent par la Révolution française et qui prend plaisir, n'est-ce pas, à raconter aux enfants, quoi? Les plus beaux traits de la vie des saints. Toujours important. Racontez-vous des vies de saints à vos enfants? Il y a certaines des vies de saints que je raconte peut-être et qui pourraient être écoutées par des enfants, des parents qui font écouter ça à leurs enfants. Et les enfants se mettent à aimer ça. Hein? Oui, la vie des saints, ça revient encore. Il y a beaucoup de livres. Hein? Vous pouvez vous en procurer pour faire lire ça à vos enfants, vos petits-enfants. Et la dévotion à la Sainte Vierge, aux anges gardiens et aux âmes du purgatoire, hein? C'est aussi très souvent le sujet de ce qu'elle raconte, cette tante. Tout ça marque pour toujours, on peut dire, l'esprit puis le cœur du petit Marcellin Champagnat. Oui, ça s'effacera jamais, ça. On est marqué dans notre enfance par ces révélations du monde de l'invisible qui devient tout à coup visible à travers la foi. Souvent, pendant sa vie, on l'a entendu parler de sa tante. Il était facile de voir, à la manière dont il s'exprimait, qu'il était encore tout pénétré des bons souvenirs qu'il gardait d'elle. Hein? Je vous rappelle, c'est toujours le temps de la Révolution, hein? Faut pas l'oublier. Le culte public, les messes en public, sont presque impossibles. Mais grâce à des prêtres qui sont cachés dans ces régions montagneuses par des paysans extrêmement courageux et qui risquent leur vie, on peut encore assister de temps en temps à la messe. Et on peut fréquenter les sacrements. Et le petit Marcelin Champagnat peut donc faire sa première communion secrètement. Son père est un homme très habile, intelligent. Il met la main à tout, selon les besoins de sa famille. Et il apprend à Marcelin Champagnat à travailler le bois, à faire de la maçonnerie, et tout ce que demande l'entretien d'une ferme. Marcelin est porté à se livrer avec ardeur à tout ce genre d'occupation. Ça va le préparer pour plus tard, c'est quand il va fonder les maristes, les frères maristes. Il réussit à merveille, d'ailleurs, puis il aime travailler. Quand il a 14 ans, il se rend compte que l'argent, ça ne se gaspille pas. Il devient économe. Économe dans le sens qu'il pratique l'économie. Quand on lui donne quelques pièces d'argent, au lieu de les dépenser à des frivolités, comme la plupart des jeunes gens de son âge, ben, il les met de côté. Alors, Marcelin Champagnat, c'est un garçon robuste, il est habile, il sait ce qu'il veut. Il s'est habitué aux travaux de la ferme, à la menuiserie, comme je vous ai dit, la maçonnerie, même la forge. Travailler le fer. Et dans ces campagnes, il faut se suffire à soi-même, c'est évident dans ce temps-là. Et ses parents sont ravis de voir comment il tire parti de quelques agneaux qui lui sont donnés. Sa tirelire, sa petite banque personnelle, on avait ça quand on était jeune. Je sais pas si ça existe encore. Ça. Elle s'alourdit à chaque nouvelle vente d'un agneau. C'est un bon petit paysan en perspective. Mais Dieu en a décidé autrement. Hein, et il deviendra ce prêtre extraordinaire, fondateur des maristes et un saint. Un jour, il y a un prêtre qui vient de cette région, qui est né dans cette région-là. Il arrive à Marles, le village de sa naissance, M-A-R-L-H-E-S. Et sur les indications du curé, M. Aliro, il se rend chez les Champagnats. Et les grands garçons, consultés, refusent catégoriquement la suggestion d'entrer au séminaire. Mais le jeune Marcelin, lui, hésite. Ce prêtre, ce visiteur, lui adresse la parole de façon presque définitive. Il lui dit, comme ça, on vous voyait les enfants dans ce temps-là, hein? Et encore récemment, on les vous voyait. Vous serez prêtre. Dieu le veut. C'est audacieux de dire ça. Dieu le veut. Et c'est vrai. Et Marcelin aussi, sans doute, le sait. Mais sans en avoir vraiment conscience, hein? C'est pour lui une révélation, et désormais, tout ce qui le retient à la ferme disparaît. Il sacrifie sa tirelire, ses petites économies, et parce que ça va payer le trousseau du futur séminariste, il faut acheter quelques vêtements propres. Et ce premier renoncement, ça va donner du poids à sa décision de devenir prêtre. En 1805, Marcelin entre au séminaire de Verrières. Il est âgé de 16 ans seulement, mais il est décidé. Et c'est dur de se mettre aux études après des années d'interruption, et Marcelin accepte de vivre dans cette grange délabrée qui sert de maison de formation. C'est après la Révolution, hein? Et il dort dans ce grenier mal fermé qu'on appelle dortoir. Il accepte tout cela parce que Dieu le veut. Dieu le veut. Alors, malgré son retard dans ses études, Marcelin Champagnat va faire deux classes, deux années en une seule. Le succès de Marcelin Champagnat au séminaire de Verrières, puis la place obtenue au grand séminaire, mettent fin à la tendance, on peut dire, des premiers biographes, là, d'en faire une espèce de réplique facile du Saint-Curé d'Ars. Vous connaissez le Curé d'Ars, qui était très peu instruit et qui savait presque rien quand il est entré au grand séminaire, mais ce n'est pas le cas de ce Marcelin Champagnat. C'était une tendance explicable, très explicable de ses premiers biographes, quand on sait que Marcelin s'est remis tardivement aux études, qu'il avait abandonné très jeune. Mais il faut dire que les archives du grand séminaire n'ont été retrouvées que bien plus tard pour nous mettre au courant de ce qui s'était vraiment passé. On a retrouvé ça durant la dernière guerre. Le jour de l'épiphanie 1814, donc, le cardinal Fesch, qui paraît-il est apparenté avec le Jacques Fesch, là, ce jeune assassin qu'on songe, étant donné qu'il est mort en odeur de sainteté avant d'être guillotiné. Je vous en ai parlé un jour, je vous ai consacré une émission sur Jacques Fesch. Eh bien, on considère qu'il pourrait peut-être être béatifié, canonisé, selon le cardinal archevêque de Paris. Hein. Donc, le cardinal Fesch, F-E-S-C-H, confère les quatre ordres mineurs à M. Collin, fondateur des Pères Maristes, à M. Champagnat, fondateur des Frères Maristes, Saint Marcelin Champagnat, puis quelques autres. Le séminariste Marcelin Champagnat fait le catéchisme dans les hameaux, là, dans les collines, dans les montagnes, de façon simple et discrète. Il rend ça imagé, intéressant pour les enfants. Or, il y a une vocation qui va naître de son enseignement. Ce sera une vocation extraordinaire, une vocation au martyr, en la personne de Monseigneur Épal, martyrisé en Océanie. L'Océanie, vous connaissez, c'est de l'autre côté de la Terre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Le 16 décembre 1845, il va être martyrisé, Monseigneur Épal. Persuadé qu'on ne peut donner que ce qu'on a, Saint Marcelin Champagnat prend la résolution de pratiquer aussi exactement que possible le règlement du séminaire et le 22 juillet 1816, à 27 ans, Marcelin Champagnat est ordonné prêtre. Il est ordonné prêtre par Monseigneur Dubourg, évêque de la Nouvelle-Orléans. Surprenant. Quelques mois plus tard, le 12 août, toujours 1816, l'abbé, on peut l'appeler comme ça maintenant, Marcelin Champagnat, est nommé vicaire à la Valla. La Valla, c'est dans les au pied des Alpes, sur les pentes du Pila, qu'on appelle ça. C'est une paroisse de 2000 âmes, très étendue et dispersée. Il y a un curé qui a traversé tant bien que mal la Révolution et qui essaie de noyer ses soucis avec les moyens du bord. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? J'ai déjà vu ça dans les campagnes françaises, parfois, des prêtres alcooliques. J'allais parler avec eux le soir, ils avaient bu un peu trop, n'est-ce pas, mais ils étaient si bons, désespérés, ils n'avaient plus personne à la messe. C'était des hommes comme abandonnés. Quelle tristesse, hein? Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça, hein? Vous savez. Alors, quoique bon prêtre, ce curé de la villa, ses manières ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour le jeune vicaire. Mais l'abbé Marcelin Champagnat le comprend bien. Et ça ne l'empêche pas de commencer quand même son apostolat avec beaucoup d'ardeur. Et il y met tant de zèle que son curé doit intervenir, parce que c'est un homme intelligent, son curé, il dit, si je l'avais laissé libre, il aurait passé une partie de la nuit à l'étude et à la prière. Il se serait épuisé. Marcelin Champagnat se met à pourchasser jusque dans les hameaux les plus éloignés les pratiques étranges de toutes sortes qu'entraîne évidemment l'ivrognerie qui est très répandue dans la paroisse. Il organise des tournées surprises pour surprendre les maisons de jeux clandestins où les gens perdent tout leur argent et n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Il essaie de faire fermer aussi les bals qui trahissent le mariage et qui entraînent la jeunesse à poser des gestes qui font que les jeunes filles mettent des enfants au monde à 15-16 ans. Il se lance dans les sentiers et dans des courses éperdues pour assister des mourants. Il cherche à réconcilier les âmes avec Dieu, c'est ça qu'il veut. Il fait le catéchisme au lever du jour très très tôt. Et souvent, le vicaire Marcelin Champagnat est tout surpris d'être devancé. La lune est tellement brillante, les gens n'ont pas de réveil à cette époque, et beaucoup de gens arrivent avant lui, longtemps avant lui, ils se réveillent dans la nuit, parce qu'ils ont hâte de l'entendre. Mais de plus en plus, l'abbé Champagnat songe à la mission que ses amis lui ont confiée. C'est quoi? C'est la fondation des frères Maristes. Parce que l'ignorance religieuse, rencontrée ça et là, comme on la rencontre de plus en plus chez nous, lui montre la nécessité de fonder des frères. Or, un événement imprévu va être décisif. Le 28 octobre 1816, l'abbé Marcelin Champagnat est appelé au chevet d'un adolescent qui s'appelle Montagne, le jeune Montagne. Après une interrogation sommaire, Marcelin Champagnat s'aperçoit que son malade ignore tout de la religion. Et en quelques minutes, car il faut aller vite, il est très malade, le jeune homme, il lui révèle l'existence de Dieu, l'éternelle destinée de l'âme. Puis, il lui donne les derniers sacrements. Et ce jeune garçon, Jean-Baptiste Montagne, meurt peu après son départ. Sauvé, s'il en était besoin, on ne sait jamais. L'abbé Champagnat songe à tant d'autres âmes qui se perdent. Non, ça peut plus durer, se dit-il. Et son rêve du séminaire lui revient. Il faudrait des frères. Même au cœur de la paroisse, Marcelin se sent seul face à une tâche qui lui semble impossible. Hein? Et cette ville, ce village de Lavala, possède une école et à partir de 1807, un instituteur. Mais pourtant, les garçons se trouvent passablement livrés à eux-mêmes. Dans les hameaux, c'est bien pire encore. Hein? Et l'abbé Marcelin Champagnat visite la paroisse et constate que beaucoup d'enfants sont sans instruction. Il songe à réaliser son rêve du séminaire. Il faut des frères, il faut des frères. Et là, le 2 janvier 1817, il réunit ses deux premiers disciples. Il les installe dans une petite maison près de la cure. C'est Jean-Marie Grandjean, son nom va revenir, et Jean-Baptiste Audras, qui aménagent leur pauvre petite maison, petite cabane que Marcelin vient d'acheter pour une somme de 1600 francs. Le mobilier des plus simples, une table, deux chaises, des lits en planches fabriqués par le vicaire, par Marcelin Champagnat. Et l'année se termine avec 5 sujets quand même, qui suivent un règlement provisoire élaboré par le fondateur lui-même. Et ce règlement n'est pas compliqué, ça se résume en 3 mots. Vous devinez, prière, étude, travail manuel. Le travail manuel, c'est une nécessité vitale, ils sont pauvres. Alors on fabrique des clous, de ces gros clous martelés que les gens appellent des clavelles. Et qui se trouvent encore sur quelques vieilles portes de grange quand on va dans les campagnes en France. Et plus tard, à Notre-Dame de l'Ermitage, on fabrique des rubans. C'est là qu'ils vont s'installer, Notre-Dame de l'Ermitage. On fabriquera des rubans. Et le produit des ventes là, suffit aux besoins essentiels. Bon, on se contente de peu, évidemment. Et Saint-Marcelin Champagnat travaille aussi dans ses moments libres. Puis aux exercices de piété s'ajoute la méditation et des prières à la Sainte Vierge. On appelait ça l'office de la Sainte Vierge. On fait la cuisine à tour de rôle. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Une soupe, du laitage, des légumes. La soupe est dans la région d'ailleurs l'élément essentiel du repas. Elle se compose de quoi? De pommes de terre coupées en petits cubes, là, en dés, et de quelques poignées de légumes verts et parfois de jeunes pousses d'ortie. Et les familles aisées, eux, ils ajoutent une longue tranche de lard fumé, non de l'argent. C'est alors un régal, un signe extérieur de richesse aussi. Les gens sont pauvres dans ces régions-là, et la communauté de Saint-Marcelin Champagnat n'a rien d'un groupe d'intellectuels au départ, non. Et rien d'un groupe d'intellectuels moroses non plus. Les récréations, calmes dans les premières minutes, deviennent rapidement bruyantes. Bah, on parle un peu joual, on parle le langage du terroir. C'est pittoresque, c'est imagé. Et puis, sur les conseils du fondateur, et pour y remédier plus vite, on se fait surveiller par un confrère pour bien parler le français. Une autre préoccupation, celle du lever. Ces jeunes gens ne connaissent pas encore les insomnies dues au surménage. Ils sont trop pauvres pour acheter comme je vous ai dit, un réveil, puis les rayons de la lune, le chant d'un coq trompé, ça chante des fois un coq à 3 heures du matin. Ça leur joue de vilains tours, hein, il leur arrive donc de se lever au beau milieu de la nuit, et d'autres fois, leur sommeil est si paisible qu'ils passent l'heure. Et alors, Monsieur Champagnat installe une petite cloche qu'il relie au presbytère, puis là, il sonne, hein, puis il invite ses disciples à se donner un directeur, et c'est Jean-Marie Grandjean, là, le premier rentré, qui est élu. Il est le directeur. Alors, leur idéal, qu'ils deviennent d'abord de bons catéchistes, hein, enseigner et transmettre la foi. C'est pour cela que le fondateur les envoie dans les hameaux, 2 à 2, pour catéchiser les petits et les grands. L'endroit plus éloigné est confié au frère Laurent, qui monte sa nourriture de la semaine, puis loge chez l'habitant et s'installe là-bas au loin. En 1819, Saint-Marcellin Champagnac, à 30 ans, confie enfin l'école à ses frères, et Jean-Marie Grandjean, là, le premier entré, en assure la direction, puis les enfants pauvres sont reçus gratuitement, les pauvres. Dès la première année, il y a 12 pensionnaires qui sont inscrits, gratuitement. À ceux qui jugent cette générosité imprudente, Saint-Marcellin Champagnat répond « Dieu qui nous envoie ses enfants et qui nous accorde la grâce de les accueillir, nous enverra bien de quoi les nourrir. » En somme, on est loin d'une pitié dédaigneuse. Il s'agit pour Saint-Marcellin Champagnat d'un devoir de conscience qui est gage de la bénédiction divine. Les parents des jeunes enfants de cette région de Lyon se montre beaucoup plus vite satisfait que le fondateur Saint-Marcellin Champagnat. Saint-Marcellin Champagnat multiplie ses leçons et juge même utile de quitter son appartement confortable du presbytère pour une chambre basse et malsaine. Imaginez, il souffre un peu le martyr, pas comme les martyrs canadiens dont on entend parler sur les ondes de radio Ville-Marie, juste avant mon émission ce matin, justement. C'est qu'il y a de mieux dans la maison des frères, c'est cette chambre basse et malsaine, finalement. Mais Marcellin Champagnat a trop de jugement pour tomber dans du paternalisme. C'est pas le genre qui voudrait à tout prix imposer ses idées, à tout modeler sur ses goûts personnels. C'est pas lui qui va pénétrer le secret des cœurs pour sa propre satisfaction, c'est pas le genre. Et c'est pas le genre aussi pour se sentir offensé à la place de Dieu. Il ne se charge ni de la direction de l'école, ni même de celle de la communauté. Il l'a confié à un des frères. Il veille simplement à leur épanouissement progressif par des touches délicates. C'est un excellent fondateur. Ici, mettons, il arrête un frère occupé à dire son office ou, si vous voulez, à prier dans un livre. Puis il lui fait comprendre que la surveillance de ses enfants est plus importante. Là, il reprend un instituteur pour avoir fait à ses élèves une défense trop rigoureuse. Il dit, allez leur dire que si quelques mots leur échappaient, il n'y aurait pas de péché. Ailleurs, il en corrige un autre de la manie des phrases compliquées. Puis il lui conseille un langage simple, clair, pour être compris. C'est ce qui nous habite souvent, un langage compliqué. Le curé de Marle, le village natal de Saint-Marcellin Champagnat, a entendu parler des frères de la Valla. Alors, il s'empresse d'en demander pour son école et se fait d'autant plus exigeant que Marle, comme je vous ai dit, c'est la paroisse natale de Saint-Marcellin Champagnat. Et bien souvent, il y arrive qu'on fonde, puis on fonde à Saint-Sauveur, à Tarentaise, à Bourg-Argental, ça s'étend. Et les jeunes profs mettent en pratique les bonnes instructions reçues de leur fondateur, Saint-Marcellin. Les parents, les autorités civiles et religieuses, tout le monde est ravi de la bonne influence des frères sur leurs élèves. Et ces débuts sont encourageants pour les développements futurs. Et depuis longtemps, lors de ses tournées, Saint-Marcellin Champagnat cherchait un endroit tranquille, suffisamment écarté pour y établir le vrai berceau de son institut, puis finit par arrêter son choix sur un beau site, là, au pied duquel coulent les eaux assez abondantes d'une rivière. L'eau, la pierre à bâtir, le bois de construction, puis de chauffage, tout ça, c'est un facteur déterminant, hein. On est sans argent. Pourtant, Saint-Marcellin Champagnat achète un terrain pour la somme de 12 000 francs. C'est beaucoup d'argent, ça, finalement, à l'époque. Et du coup, tous ceux qui guettent dans l'ombre après leur première défaite, il y a toujours du monde pour presque souhaiter qu'une bonne œuvre disparaisse. Ils se ruent sur l'occasion. Dans toutes les réunions pieuses, et dans toutes les rencontres, pieuses encore, dans tous les banquets, il se trouve quelqu'un pour dire que M. Champagnat a perdu tout son bon sens. Quelques curés ayant appris qu'un libraire de Lyon avait prêté les 12 000 francs fondateurs, il l'invite à dîner pour lui conseiller, vous savez, de retirer son argent avant qu'il ne soit trop tard. Et le brave homme, profondément chrétien, et qui, de plus, voit peut-être une bonne clientèle d'avenir avec ces jeunes qui vont acheter des livres, mais ils résistent et puis ils préfèrent bien faire et laisser braire, comme on disait autrefois. Ils laissent les personnes jacasser. Dieu sait combien cette construction lui coûte de fatigue à Saint-Marcellin, et de privation aussi. Il faut trouver à se loger dans une vieille baraque de l'autre côté de la rivière. Les frères sont tellement serrés que, après les avoir installés, Saint-Marcellin Champagnat ne trouve plus de place pour son lit. Alors il doit porter son lit sur un vieux balcon à ciel ouvert, et l'hiver venu, il descend à l'écurie. Est-ce que c'est un fou? Non, c'est un saint. Quand le vicaire général, représentant de l'évêque, vient bénir la première pierre, on est obligé de le faire manger chez un habitant du voisinage. Pourquoi? Parce que le frère cuisinier n'a rien de présentable à lui offrir. Pourtant, les murs lentement s'élèvent, et puis, sans tomber dans le miraculisme, il semble bien que la Sainte Vierge ait tenu à marquer visiblement sa protection dans une série de circonstances qui auraient pu entraîner de graves accidents. C'est du moins l'opinion des premiers frères, et pendant toute cette construction, la communauté est debout à 6 heures, puis après des ablutions solides avec de l'eau froide de la rivière, on se rend en silence dans le bois. Il y a une chapelle dédiée à la Vierge, là. C'est une commode qui sert d'autel. La cloche est suspendue à un chêne. Puis, après une demi-heure de méditation, le fondateur, Saint-Marcellin Champagnat, célèbre la Sainte Messe et tout le monde prie, comme on savait prier dans ce temps-là. Quand vient l'hiver, 1824, les travaux sont suffisamment avancés pour permettre les aménagements intérieurs, et là, la communauté s'y installe dès l'été suivant, puis il y a une quarantaine de religieux déjà qui composent alors la congrégation. Ça grandit, hein? Le curé de Saint-Chamond, là, qui a autrefois fermé sa porte au vicaire de la Valla, vient bénir la chapelle. Alors les épreuves que vit le père Champagnat n'empêchent pas la joie de régner habituellement dans la communauté de l'Ermitage. Le père Champagnat est d'ailleurs convaincu qu'un saint triste, c'est un triste saint. Oui, faut jamais oublier ça, un saint triste, c'est un triste saint. Mais est-ce que ça existe des saints tristes? Il paraît que oui. Ça doit pas être drôle. Seul son enthousiasme à Saint-Marcellin Champagnat peut expliquer sur le plan humain la résistance devant les difficultés puis l'extension rapide de sa jeune congrégation des frères maristes. Vous voulez des preuves? Un jeune frère, d'une quinzaine d'années probablement, nommé Sylvestre, se charge à lui seul de dérider les plus graves. Il commence par se signaler à l'attention du père Champagnat d'une façon un peu particulière. C'est qu'un certain soir, alors que le frère Sylvestre, ce jeune garçon, se trouve au bas de l'escalier, il voit venir une ombre derrière lui, puis se met aussitôt en demeure de lui barrer la route. Vous savez comment on fait en allant d'un côté à l'autre dans l'escalier, si bien que l'ombre ne réussit pas à passer. Et puis le frère, évidemment, monte lentement. Arrivé au sommet, ce jeune espiègle, fier de sa victoire, se retourne, puis qu'est-ce qu'il aperçoit? C'est le père Champagnat. Là, doucement, la recommandation lui est faite d'être un peu plus sérieux, parce qu'il sait comprendre la jeunesse. C'est pas pour longtemps. À quelques jours de là, il est chargé de l'entretien des lampes, ce jeune garçon encore, ce jeune novice. Il renverse son cruchon d'huile sur la soutane du fondateur, et on le trouve bientôt chargé d'un autre emploi de confiance, celui de coiffeur. Alors qu'est-ce qu'il fait, le malheureux gamin? Il a la tête d'un confrère entre les mains, il a des ciseaux, alors il décide de s'amuser, il taille une belle tonsure. Les tonsures, ce n'est fait que pour les prêtres, hein? Il fait une tonsure à un novice frère. Et cette fois-ci, la chose est gravement jugée, parce que là, il y a une tonsure. Comment faire? On peut pas replacer les cheveux, évidemment. Alors, on le prive pour quelques jours de la soutane, parce que les jeunes, à 15 ans, déjà prenaient la soutane dans ce temps-là. Mais chez les frères, sans doute le temps que les cheveux repoussent. Le père Champagnat aime pourtant ce jeune espiègle. Il comprend parfaitement son besoin de mouvement puis de faire des blagues. Il lui donne pour compagne les 2 chèvres destinées à fournir du lait et du fromage frais aux malades. Le lait de chèvre était alors recommandé pour prévenir et combattre la tuberculose, très répandue en France. Et il faut le voir gambader, ce jeune novice, presque aussi léger que les chèvres. Un jour, pour prévenir leurs caprices, les caprices de ces chèvres, il les attache... Puis il se prend à la corde comme les gendarmes et leurs prisonniers, là. Ils s'attachent. Tout à coup, les chèvres s'affolent. Et c'est la culbute, lui, dans les rochers. Et de loin, le père Champagnat ne distingue pas très bien ce qui se passe. Alors, il a peur et il donne une absolution générale. Et le frère Sylvestre se relève sain et sauf, les chèvres aussi. Est-ce un miracle? Probablement. Le père Champagnat, qui connaît bien l'état d'âme de son novice, ne voit dans toutes ces espiégleries aucun obstacle à sa persévérance. Puis en effet, qu'est-ce qui va arriver au frère Sylvestre? Il va devenir plus tard un bon professeur à l'école de Saint-Genis-Laval et il va mourir assez âgé en 1887. Saint-Marcellin Champagnat s'est consacré à Jésus par Marie. C'est la grande époque de la dévotion à la Très-Sainte Vierge. Pour lui, Marie est le chemin qui conduit nécessairement à Jésus. Sa vie, imprégnée de toutes sortes de gestes et d'attitudes d'enfant à l'égard de sa mère, du ciel, et, disons, un compagnonnage de tous les instants, dans les joies comme dans les peines. Vous connaissez Notre-Dame de Fourvière, probablement à Lyon, cet immense lieu de vénération de la Vierge, qui était construit au siècle dernier. C'est une église qui n'est pas très belle. C'est immense à Lyon, sur la montagne, Notre-Dame de Fourvière. Eh bien, cette Notre-Dame de Fourvière, c'est celle qui donne l'élan de toute la mission apostolique et des projets de fondation de Saint-Marcellin Champagnat. Bâtir l'Église, faire croître le royaume de Dieu au cœur du monde et au cœur des hommes, en vénérant Marie, voilà son programme. Il s'agit bien de faire connaître et aimer Jésus-Christ d'abord, et de faire honorer Marie. Marie des grands projets, Marie des grands desseins. Marie est aussi présence maternelle chaque jour, dans les jours ordinaires qui parfois se font plus difficiles, plus gris. Celle dont le regard est imprégné de toute la tendresse et de la miséricorde de Dieu, c'est Marie. Je répète, celle dont le regard est imprégné de toute la tendresse et de la miséricorde de Dieu. C'est la découverte de Notre-Dame de Pitié et la restauration de son sanctuaire aussi. Marie, Marie de toutes les ressources, de tous les secours, perçue dans la petitesse et l'humilité de sa mission. Alors Saint-Marcellin contemple sans cesse le visage de Marie, fait de simplicité et d'audace. Et à Fourvière, bien, elle est la figure de l'Église qui dévoile le monde à évangéliser jusqu'aux horizons les plus lointains. À Laval, là, elle est mère de pitié, proche des hommes, dans le besoin. Elle est attentive à la vie de chacun. C'est elle qui tourne notre cœur vers le Christ. Et chez Saint-Marcellin Champagnat, une certitude. Suivre les pas de Marie nous conduit sur les pas de Dieu lui-même. C'est ainsi qu'il faut construire l'Église. Et Saint-Marcellin a su mettre en évidence toutes les présences signalées de Marie dans la Bible, dans l'Écriture. Présence souvent silencieuse et signifiante dans la vie de Jésus. Présence priante et déterminante dans la vie des apôtres et de l'Église à ses débuts, il y a 2000 ans. À Notre-Dame de Fourvière, Saint-Marcellin, jeune prêtre, a mis son ministère sous la protection de la Sainte Vierge par un acte de consécration que je vous lis. Vierge Sainte, c'est vers vous, comme vers le trésor des miséricordes et le canal des grâces, que j'élève mes mains suppliantes, vous demandant avec instance de me prendre sous votre protection et d'intercéder pour moi auprès de votre adorable Fils, afin qu'il m'accorde les grâces qui me sont nécessaires pour être un digne ministre des autels. C'est sous vos soins que je veux travailler au salut des âmes. Je ne puis rien, ô Mère de miséricorde, je ne puis rien, je le sens. Mais vous pouvez tout par vos prières. Alors, Vierge Sainte, je mets toute ma confiance en vous. Oui, je vous offre, je vous donne, et je vous consacre ma personne, mes travaux et toutes les actions de ma vie. On peut constater combien cette dévotion à Marie est dans une tradition très ancrée dans la spiritualité du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et depuis sa longue maladie de 1825, le père Champagnat souffre d'un point au côté, d'une faiblesse d'estomac. Et comme il s'occupe fort peu de lui-même, personne n'y prend garde, et après un voyage à Paris, il y a des vomissements, presque continuels, qui viennent s'y ajouter. Et son ami, le père Colin, fondateur en 1816 des Pères Maristes, finit par s'en inquiéter, puis suggère au fondateur des Frères Maristes de donner à ses frères un gouvernement indépendant des Pères Maristes, et le père Champagnat, Marcelin Champagnat, malgré quelques réticences, consent à l'élection d'un directeur général des frères, et c'est le 12 octobre 1839 que les frères prophètes, là, vraiment, sérieusement, sont appelés à choisir celui d'entre eux qui devra porter, après le fondateur, la lourde responsabilité de l'Institut. C'est le frère François, le petit Gabriel Riva des tout premiers temps, qui obtient 87 voix, là, et il est proclamé élu. Et cependant, le père Champagnat refuse de prendre le repos nécessaire, et on le voit partout, à la cause Saint-André, pour une retraite des élèves qui veulent tous se confesser à lui, à Autun, pour la fondation du noviciat de Vauban, à la Grande Paire pour une dernière bénédiction, puis sur les chantiers de l'Ermitage, où les outils lui tombent des mains. Et là, le jour de l'ouverture du mois de Marie, le mois de mai, il a le pressentiment de sa mort prochaine. Et aux frères qui se lamentent, il répond, « L'homme n'est qu'un instrument. C'est Dieu qui fait tout. » Le 3 mai 1840, il dit sa dernière messe, et le 11, il reçoit les derniers sacrements, présence de la communauté. Le 18 mai, il fait lire et signe son testament spirituel devant les frères en larmes. Il s'écrie d'ailleurs d'une voix pathétique qu'il fait bon mourir dans la société de Marie. Et c'est avec une joie profonde qu'il reçoit la visite du père Colin et d'un autre prêtre. Et les deux prêtres repartent émerveillés, touchés d'avoir trouvé une si grande foi. Peu après leur départ, le bon père Marcelin Champagnat sollicite les faveurs de mourir à l'infirmerie. Et sur un pauvre lit de fer, ben on lui accorde le pauvre lit de fer. Et le lundi 1er juin, il reçoit quelques vieux amis, puis il répète encore, « Ah, si vous saviez comme il fait bon mourir dans la société de Marie. » Puis il ajoute, « Si j'ai le bonheur d'être auprès de Marie, je la prierai avec tant d'insistance pour tous les frères de l'Institut qu'elle leur obtiendra miséricorde. Oui, j'ai confiance que tous ceux qui persévéreront dans leur vocation et qui auront de la dévotion pour cette bonne mère parviendront au salut. » Alors, le vendredi soir, 5 juin 1840, le père Marcelin Champagnat est de toute extrémité, comme on dit. Mais il trouve la force quand même d'engager les frères à aller se reposer. Vers 2h30 du matin, le 6 juin, il dit tout à coup aux frères qu'il veille, « Votre lampe s'éteint. » Le frère lui dit, « Oh non, mon père, elle est en très bon état. » Et là, Saint Marcelin Champagnat répond d'une voix très faible, « Ah, je comprends, c'est ma vue qui s'en va. Oui, mon heure est venue. » Que Dieu en soit béni. Puis il entre en agonie, et vers 6h20, le matin, alors que la communauté, très inquiète, récite à la chapelle la prière qu'il aimait tant, le Salve Regina, la respiration se ralentit, puis à tout coup, il expire. On le revêt de ses vêtements de prêtre. On lui met à la main sa croix de profession. C'est l'aube du samedi 6 juin 1840. Hein. Il avait 51 ans. Quand il est mort, à 51 ans, il y avait déjà 290 frères enseignants, maristes, dans 48 écoles primaires. Ils enseignaient à 7000 enfants. C'est extraordinaire, hein? Extraordinaire. Le frère Laurent, un disciple de la première heure, a porté un très beau témoignage. Il dit, quand il venait le soir, il arrivait souvent qu'il était tout déchiré, tout couvert de sueur et de poussière. Il n'était jamais si content que quand il avait beaucoup travaillé, beaucoup souffert. Moi, je l'ai vu plusieurs fois travailler par un temps de pluie et de neige. Nous autres, nous quittions l'ouvrage, mais lui, il continuait de travailler, et souvent la tête nue malgré la rigueur du temps. Le temps qui n'était pas employé au travail des mains était employé à la prière et à la méditation. Nous étions très pauvres au commencement. Nous avions du pain qui était de la couleur de la terre. Mais nous avons toujours eu le nécessaire. Notre bon supérieur, comme le plus tendre des pères, avait grand soin de nous. Et ce frère Laurent ajoute, je me rappellerai toujours de la peine qu'il se donnait lorsque j'étais malade à Laval. Il venait me voir tous les jours. Il m'apportait toujours quelque chose pour me soulager. Et par des paroles de consolation, il m'encourageait à souffrir tout avec patience pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il disait, Saint Marcellin Champagnat? Une phrase merveilleuse. Je ne puis voir un enfant sans avoir envie de lui dire combien Dieu l'aime, combien Marie est une bonne mère pour chacun. Quel amour de Dieu et de la Vierge, hein? Quelle passion pour la jeunesse qu'on peut voir dans ces quelques mots. Hein? Ce sont des mots de ce fondateur de l'Institut des Frères Maristes, Saint Marcellin Joseph Benoît Champagnat, que le pape Jean-Paul II a canonisé à Rome le 18 avril. Une lettre écrite 9 ans plus tôt au frère Barthélemy révèle la profondeur de son amour pour les jeunes. Je trouve ça dans un autre article de Michel Boulva dans l'Informateur catholique du 18 avril, le jour même de la canonisation. Voici cette lettre de Saint Marcellin Champagnat. Vous avez en main le prix du sang de Jésus-Christ. Vos nombreux enfants vous seront, après Dieu, redevables de leur salut. Leur vie entière sera l'écho de ce que vous leur aurez appris. Mais forcez-vous, n'épargnez rien pour former leur jeune cœur à la vertu. Faites-leur bien sentir que sans la vertu, sans la piété, sans la crainte de Dieu, ils ne seront jamais heureux. Qu'il n'y a point de paix pour les gens impies. Que Dieu seul peut faire leur bonheur. Que c'est pour lui seul qu'ils ont été faits. Que du bien, mon cher ami, vous pouvez faire. Ce sont les paroles d'un saint que j'aime beaucoup, qui nous rappelle que le Dieu des chrétiens, ce n'est pas l'être suprême qu'on essaie de nous mettre dans le crâne. C'est ni le grand juge qui nous fait peur. Ce n'est pas non plus le grand tout fusionnel que le Nouvel Âge essaie de nous faire accepter. On va se fusionner avec lui. Pas ça du tout. Dieu, des chrétiens, c'est le Père de Jésus-Christ qui a donné son esprit aux hommes, à Saint Marcellin Champagnat en particulier. Dieu avec lequel le croyant entretient une relation personnelle et aimante, aimante. Cette initiation dessine d'une ligne sûre les fondements de la foi chrétienne. Quand on est initié à ces vérités fondamentales, on en arrive à aimer le christianisme par-dessus tout, comme Saint Marcellin Champagnat et, je l'espère, tous les frères maristes. Je me réjouis pour eux et je rappelle à tout le monde que l'Assemblée des évêques du Québec a pris la défense de l'école confessionnelle, tout en favorisant les commissions scolaires linguistiques, et qu'il faut continuer à enseigner à nos enfants les vérités fondamentales que Saint Marcellin Champagnat tenait tant à enseigner aux enfants à son époque, et c'est toujours valable.